Théma, le magazine pour faire le tour en une heure de l'actualité.
Théma.
Bonjour à tous et bienvenue dans une émission spéciale diffusée sur 48FM, Radio Margerie et Radio Zéma en partenariat avec le département de la Lozère et l'Assemblée régionale des radios associatives d'Occitanie. Nous sommes en direct de l'espace Georges Fraîche de Mende à l'occasion des journées de l'alimentation. Pendant une heure, nous allons parler de ce que l'on pourra trouver demain dans nos assiettes. Pour animer cette émission, je suis aux côtés de Romain Morantin et Jean Soulet de Radio Zéma. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour Julien.
À la technique, on retrouve Ludovic Terol de 48FM. Alors Romain, est-ce que tu peux nous parler du programme ?
Eh bien, t'en as parlé rapidement, on va discuter de nos habitudes alimentaires. La Lozère compte 2400 exploitations agricoles et depuis 2021, de nombreuses initiatives se multiplient pour aspirer à plus d'indépendance et permettre à chacun d'avoir accès à des produits locaux et durables. Ces initiatives sont regroupées dans un programme, le Projet Alimentaire Territorial ou PAT. C'est autour de ces sujets que va se construire l'émission. Dans un premier temps, on parlera donc de ce PAT pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Dans un second temps, nous verrons où et comment consommer des produits locaux en Lozère. Et enfin, nous aborderons la notion de sécurité sociale de l'alimentation.
Un beau programme donc. On va s'intéresser d'abord au PAT et notamment à sa dimension politique. Et pour en parler, nous recevons Sophie Pantel, la présidente du conseil départemental de la Lozère. Bonjour, merci d'être venue.
Bonjour, merci de m'avoir invitée.
Nous recevons également Robert Aiguin. Vous êtes le vice-président du département et en charge du projet alimentaire territorial.
Oui, bonjour.
Alors tout d'abord, je me tourne vers vous, Sophie Pantel. Quel est l'objectif de ce programme ?
Alors la Lozère est une terre agricole, hein, vous venez de rappeler le nombre d'exploitations agricoles, et pour autant en fait l'accès à l'alimentation reste encore inégalitaire. Et donc pour nous ce qui était important c'était de répondre à plusieurs enjeux. Donc il y avait la question de la lutte contre la précarité alimentaire, travailler sur l'alimentation c'est aussi travailler sur la question en fait de la santé. C'est aussi tout l'aspect économique, parce que en travaillant une alimentation locale, ça permet aussi en fait, de pouvoir accompagner les exploitants agricoles, les producteurs, à améliorer en fait, leurs revenus en créant de la valeur ajoutée et cette plus-value. C'est aussi une question d'attractivité, parce qu'on connaît souvent les territoires à travers leurs produits. On a même des départements entiers qui sont connus grâce à leur fromage ou autre. Et sur le département, ben, on a énormément de ce qu'on appelle les SICO, les signes officiels de qualité qui sont très présents. Et puis c'est un enjeu sociétal parce que parfois on a des revendications de la part des consommateurs mais qui peuvent être contraires entre les individus, entre ce qu'ils vont demander sur le plan environnemental et ce qu'ils vont vouloir trouver aussi dans leurs assiettes, mais on pourra y revenir.
C'est une manière donc d'anticiper si des changements.
Oui, mais c'est une manière en fait de travailler la souveraineté alimentaire mais aussi de répondre aux enjeux de transition écologique.
Alors comment est né ce programme ? Je me tourne vers vous, monsieur Aiguin.
Bien, nous avons répondu à un appel à projet voilà, 2 ans déjà, sur lequel un projet national qui nous a permis d'être labellisé, donc PAT territorial Lozère, qui nous a permis d'embaucher une animatrice déjà, qui nous a permis aussi de commencer par un diagnostic. Alors on a commencé par un diagnostic par rapport à ce qu'on faisait déjà au niveau du département et puis ensuite on l'a lancé grand public au travers d'un questionnaire en ligne pour savoir les habitudes des consommations qu'il y avait, comment consommer, comment se nourrissait en Lozère et quels étaient les enjeux justement de l'alimentation pour chaque citoyen et comment il positionnait l'alimentation dans les 15 ans à venir.
Et quel a été le résultat de ce diagnostic ?
Ben, il était assez intéressant puisque déjà on a au travers de nos propres agents il y avait une façon aussi de s'alimenter et de voir quels seraient les axes à travailler pour que ça soit encore mieux parce que tout le monde mange mais ce qu'on veut c'est que tout le monde mange mieux avec des produits locaux. C'est ce qui est ressorti du questionnaire, c'est que les gens au-delà de choisir du bio ils voulaient surtout du local. Ça veut dire qu'ils ont ils portent attention aussi à la production locale, ce qui est, me semble-t-il, vertueux aujourd'hui. C'est dans un territoire rural, c'est de dire, ben oui, mais moi je sais que j'ai des producteurs en Lozère et je voudrais consommer leurs produits. Et on s'est rendu compte aussi que ben on n'avait pas l'accessibilité forcément à tous ces produits-là. Ils n'étaient pas partout. Il y avait des grandes surfaces comme Hyper U qui jouent le jeu et qui a une gamme et des contractualisations avec des producteurs locaux qui est énorme pour un petit département comme nous. Dans les supérettes, il n'y en avait peut-être pas comme on voulait. Où sont les maisons de producteurs? Elles ne sont pas partout. Donc il y avait ce maillage de produits locaux à faire connaître aussi, et qui est un enjeu aussi pour nous. C'est que des fois, on a beaucoup de production, mais on ne sait pas forcément le vendre ou les mettre dans les rayons pour qu'ils soient plus attractifs que d'autres. Donc il y a tout un travail, et le questionnaire en ligne, plus les débats que nous avons eus lors des projections de films dans le mois du doc qu'organise le département et la médiathèque départementale, on s'est aperçu dans les débats qui suivaient les 11 projections qu'il y avait des attentes et qu'il y avait aussi une vision des fois différente entre certains qui voudraient tout du bio, d'autres qui disent ben nous le local nous suffit même s'il n'est pas bio, et puis d'autres qui disent oui mais en Lozère peut-être qu'on ne fait pas la bonne agriculture pour avoir que du bio. Enfin, il y avait des questions intéressantes qui ont été travaillées ensuite dans les ateliers qui ont eu lieu pendant l'automne.
Ça veut dire que effectivement les consommateurs ont un œil sur la production, c'est-à-dire ils sont intéressés par le fait que c'est une production de proximité. Alors je veux voir ce qui se passe, c'est ça?
C'est ça, tout à fait. Mais je crois qu'aussi il y a eu un déclic qui a été au moment de la pandémie du Covid, où il a fallu se replier sur la production locale, qui a ouvert des perspectives, même si il y a eu un certain désenchantement parce que les habitudes ont été reprises de retourner voir ailleurs. Mais je crois que ça a ouvert un focus qui est très intéressant pour les populations et de revenir vers la production locale.
Alors... En fait, juste si je peux me permettre de compléter, sur ce qui était important pour nous, c'était vraiment d'avoir le bon diagnostic sur l'ensemble du territoire. Donc on a travaillé grand public avec des outils qui étaient quand même plutôt ludiques, hein, avec diffusion de films pour faire réagir avec des questionnaires, enfin voilà ce qu'a pu indiquer Robert à l'instant. Mais on a aussi testé au niveau de cuisine collective. Et on a 4 établissements qui ont été candidats, donc l'ITEP de Bellesagne, la cuisine centrale à Ispagnac, le collège de Marvejols, et le quatrième, je cherche, je crois que c'est Montrodat, je crois que c'est l'école de Montrodat. Et donc ça permet vraiment d'identifier en fait à la fois. L'idée du PAT, c'est identifier les freins, les difficultés et surtout trouver les solutions. Et c'est ce qui va être proposé là ce soir en fin de journée, c'est de découvrir en fait les actions concrètes qui vont pouvoir être menées maintenant sur les 2 années qui restent et qui vont permettre en fait de répondre à la fois aux objectifs de la loi Egalim et à cet objectif que l'on a de permettre à chacun d'accéder à une alimentation qui soit plus saine, locale et durable, même si... Comme l'a dit Robert, derrière le mot durable, il y a eu de nombreuses discussions pour savoir ce qu'était le durable.
Alors tant qu'on a l'exclusivité, est-ce que vous pouvez nous indiquer quelles actions vont être mises en place sur le département pour ce PAT?
Allez Robert.
Alors plusieurs, on est parti au travers des...
Moi je peux vous dire qu'il y a 22 priorités.
Oui, il y a 22 priorités, mais...
Si vous pouvez en lister quelques-unes, n'hésitez
oui,
pas.
Oui, simplement, on va en parler de celles qui ont été vraiment, je pense qu'ils sont... On va partir des freins qui sont aujourd'hui, qui existent en Lozère. Alors, un écueil que nous avons en Lozère, mais qui a tendance à se résoudre petit à petit, c'est la production végétale et arboricole. C'est vrai que nous sommes un département d'élevage, bien affirmé, un élevage laitier avec une production de fromage extraordinaire, avec des typicité.
De viande extraordinaire.
Et de viande extraordinaire. Donc nous avons tout ça aujourd'hui, mais on est un petit peu en dessous sur la production végétale et maraîchère et arboricole.
Et quelles vont être les solutions pour fixer ça?
Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est de mettre tout le monde autour de la table. Alors, il y a la Chambre d'agriculture, bien sûr, qui est quand même le maillon fort aujourd'hui pour pouvoir... répondre aux installations de production qui sont manquantes aujourd'hui en Lozère, donc qui n'existent peu ou pas. Donc il y a un travail qui est fait avec eux. Il y a un travail sur le foncier aussi, parce que comme on est dans l'élevage, on n'a pas forcément mis à la disposition de futurs maraîchers des terres disponibles et qui sont bien spécifiques pour faire du maraîchage. On ne fait pas du maraîchage n'importe où. Il faut qu'il y ait la production d'eau aussi. Il faut avoir des terres profondes souvent. Il faut, donc tout ça, ça demande à la fois une expertise dans le diagnostic, mais aussi sur la demande. Et donc la demande, nous, on l'a au travers des collèges, notamment, dont on s'occupe. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, on n'a pas la production maraîchage et arboricole qui permettrait aujourd'hui d'être à 100% en local.
Donc une de ces actions, ça serait de soutenir le maraîchage local.
Tout à fait. Donc ça en est une. La deuxième, qui est aussi importante, hein, c'est la logistique. C'est que nous sommes un département qui est excentré, tout le monde le connaît, avec des régions à faible population. On a des petits collèges, notamment dans le sud de Lozère, on a 7 petits collèges qui sont avec des moyennes de convives à midi qui sont entre 60 et 100 convives. Donc c'est toujours difficile pour ces collèges-là de se faire approvisionner aujourd'hui sur des petites quantités. Donc la logistique a une importance énorme, mais je pense que si on réussit sur l'alimentaire, je pense aussi qu'en logistique, on réussira sur bien d'autres points où la logistique est un écueil aujourd'hui.
Vous avez évoqué les collèges, mais concrètement, pour tous les Lozériens, si ce PAT est concrétisé avec les 22 actions qui sont mises en place, quel va être le quotidien des Lozériens avec ce PAT mis en place ?
Alors l'idée, c'est bien sûr manger mieux, d'avoir l'accès aux produits locaux en priorité et d'avoir des produits locaux qui sont à la fois, c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire que ça permet à des agriculteurs de vivre, donc rémunérateurs, des produits rémunérateurs et des produits de qualité portant à l'assiette. On sait aujourd'hui que l'alimentation globale, qu'elle soit en Lozère ou ailleurs, on est super dépendant de l'extérieur aujourd'hui. Donc l'idée, ce que disait un petit peu tout à l'heure la présidente, c'est la souveraineté alimentaire. Est-ce une possibilité ou un leurre en Lozère? Est-ce qu'on est capable demain d'être souverain au niveau alimentaire? C'est une question qui taraude tout le monde, hein, puisque nous avons des phénomènes internationaux aujourd'hui qui nous montrent la fragilité que nous pouvons avoir. Hein. Je crois que là-dessus, il faut qu'on soit conscient qu'il faut faire des efforts.
Donc la Lozère pourrait assurer sa souveraineté alimentaire si ce PAT est mis en place ou non?
Mais aujourd'hui, avec ce qu'on produit ou ce qu'on élève sur le territoire, on pourrait nourrir 2,5 fois notre population. Donc oui, nous pouvons être souverains. Après, la question de fond, nous ne sommes pas isolés. Nous avons un maillage territorial et un habitat dispersé avec l'altitude moyenne la plus haute de France. Et donc c'est comment on amène ces produits à un coût raisonnable sur l'ensemble du territoire et accessible à tous. C'est pour ça que indépendant et une partie des actions traite aussi de la lutte contre le gaspillage et notamment au niveau de la restauration collective. Voilà. Et on s'est rendu compte, parce que ce ne sont pas les premières actions, on avait travaillé sur Agri Local, auprès de ma ferme, nous on a mis un dispositif d'aide pour les collèges pour s'approvisionner au plus près en local, il y a la fête du goût, enfin voilà, des actions il y en avait. En fait l'intérêt du PAT, c'est quelque part de tracer une ligne, des objectifs communs, partagés, parce qu'en fait il y a beaucoup de partenaires, et d'entraîner tout le monde avec nous. Pas que les collèges comme on faisait jusqu'à présent, mais vous savez aussi qu'on a 27 EHPAD, on a 29 établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap et la population. Et on a aussi une population avec un revenu médian qui est inférieur en fait au revenu national hein, sur notre département, qui est plus faible. Donc il faut qu'on arrive à compenser ce qui peut être des freins et qui peut expliquer une partie en fait du coût aujourd'hui par notamment la lutte contre le gaspillage alimentaire, ce genre de choses. Voilà. Donc c'est vraiment, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est une démarche qui est collective. C'est faire ensemble pour atteindre ces objectifs aujourd'hui qui sont partagés.
Tout à fait. Pour aller dans le sens de la présidente, je dirais que aujourd'hui, le PAT, le projet d'alimentation de territoire du département, ne se substitue en aucun cas aux PAT qui sont déjà sur des territoires, mais au contraire, qui va les faire converger de tout ce qui se passe aujourd'hui.
J'allais en venir justement, il y a trois autres PAT en Lozère, notamment dans la communauté de communes du Haut-Allier, le parc naturel de l'Aubrac et le PETR Sud-Lozère. Est-ce que c'est une manière de centraliser les initiatives, ce PAT départemental ?
Non, c'est donner de la cohérence et, voilà. Et partir. Alors c'est vrai que ce sont des territoires au début qui sont partis sur ces démarches territoriales. Par exemple, le Haut-Allier, ils ont beaucoup lié à leur plan santé aussi. Voilà, sur le sud, l'axe était un peu différent. Donc en fait, ces dynamiques territoriales, elles perdurent, elles vont continuer à avancer. Et en fait, on a une coordination entre nous. Et ça permet en fait de s'appuyer aussi sur des réussites pour l'étendre à l'ensemble du territoire lausérien.
D'accord. Moi, je voudrais poser une question concernant les établissements scolaires. Est-ce que vous avez un partenariat entre collèges et éducation nationale ? Parce qu'il y a beaucoup de pédagogie dans ce que vous faites qui pourrait être exploité, entre guillemets, par les enseignants.
Alors, en fait, on a un dispositif. D'abord, peut-être en amont, je vais me permettre de le dire. Vous savez que les agents qui travaillent dans les collèges sont des agents de la collectivité départementale. Pour autant, les gestionnaires de collèges restent statut État. Donc c'est extrêmement compliqué puisque les départements se battent maintenant depuis plusieurs années pour obtenir, en fait, la décentralisation des gestionnaires. Parce que parfois, vous pouvez avoir un fonctionnaire gestionnaire qui peut ne pas, en tout cas, ne pas s'associer ou ne pas vouloir aller dans le sens en fait des décisions de la collectivité, notamment pour atteindre les objectifs de la loi Egalim. Voilà. Donc ça, c'est quand même, on a une tête bicéphale qui pose des problèmes concrètement. Voilà. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les éco-collèges. Donc, on travaille avec le réseau Le Réel, hein, qui regroupe toutes les associations environnementales d'éducation à l'environnement. Et donc, on les finance pour accompagner chaque année les collèges. Et un des axes forts vis-à-vis des collèges pour obtenir cette labellisation, ça a été de travailler sur la question de l'alimentation, des circuits courts et de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Très bien, merci.
Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose concernant ce projet alimentaire territorial ?
Alors si, ce qu'il faut dire quand même, parce qu'on a un partenaire de poids qui est très important et sans lequel il n'y aurait pas eu cette démarche non plus, c'est quand même l'État, puisque l'État nous finance les deux tiers du poste d'animation. En fait, ça ne fonctionne que parce qu'on fait du lien. On fait du lien entre les institutions, entre les structures, entre les personnes. Et donc voilà, c'est vrai qu'on a été lauréat de cet appel à projet et pendant 3 ans, on est fortement soutenu par l'État. On est accompagné par la DDT, l'Andréal
et l'ADEME.
Et l'ADEME aussi.
Eh bien écoutez, merci d'avoir répondu à nos questions. Donc on l'a vu, la dimension locale et les circuits courts sont très importants dans ce plan alimentaire territorial. Alors on peut toujours se fournir auprès des producteurs, mais les distributeurs auront aussi leur rôle à jouer. On voit ça juste après une pause musicale.
Orange dread like chamomile. All you need is love for Carimatis. I see him when I'm sur mon grand bateau. Je garde mes yeux ouverts quand il pleut de l'art. Dans tout bon jeune verso, je fuis dans le sud pour ne pas perdre le nord. Ce n'est que de l'eau. Marie monte sur nos visages. Nouveau départ aux vieux orages. Ça pleut tellement ces temps-ci. C'est pas pour rien qu'on s'enfuit. C'est un temps pour tomber des pavés plein la mort. Des amis qui s'effacent comme ça sans crier gare. Des larmes de gin, des larmes de joie.
des petits miracles, mais toi tu changerais l'eau en quoi? Ce n'est que de l'eau. Cette tranche de vie sont minuscules comparées à mes pupilles. Ce n'est que de l'eau.
Des produits locaux et durables pour nos assiettes? La réponse se trouve dans les grandes surfaces, mais aussi dans les magasins spécialisés. C'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie de cette émission en direct des Journées de l'alimentation à Mende. Nous recevons Elsa Weber, co-gérante du magasin Biocoop de Mende, et Guillaume Nasguer, gérant du supermarché Carrefour Market de Florac. Alors bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Nous sommes également en compagnie de Michel Duru. Vous êtes agronome et directeur de recherche à l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, je me tourne vers vous, les distributeurs. Quels sont les produits locaux que vous proposez en magasin, notamment Madame Weber?
Alors les produits locaux représentent 15% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est un gros pourcentage pour un commerce de distribution alimentaire. On a à peu près 100 producteurs locaux avec qui on travaille régulièrement et plus de 800 références en magasin.
Quel type de produits? De la viande, des légumes?
C'est maraîchage, céréales. Produits transformés salés, produits transformés sucrés, tout ce qui est boulangerie.
Et vous, du côté de Florac, est-ce que vous avez d'autres partenariats? Parce que quand on pense notamment à Carrefour, on pense à une grande chaîne également, un peu comme Biocoop, une grande chaîne de supermarchés. Vous avez quand même des partenariats locaux?
Bien sûr, c'est important. On a beaucoup de produits qui viennent des fermes lausériennes et qui viennent des alentours de Florac. Je pense notamment au fromage, à la viande et aux produits transformés à base de châtaigne ou de la bière encore, qui est produite à proximité.
Pourquoi vous proposez ce genre de produit? Est-ce que c'est par engagement ou c'est pour répondre à une demande des clients, ou les deux?
Les deux. Les deux, parce que oui, bien sûr, on a des clients qui sont très attachés à l'alimentation locale et à trouver des produits qui créent une vraie dynamique locale. Et puis aussi parce que en tant que commerçant, on aime bien découvrir des nouveautés, proposer des nouveautés à nos clients et donc apporter des nouveautés régulièrement et porter aussi un certain nombre de projets qui sont menés par notamment par des agriculteurs dans la zone.
Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais je rajouterais même que pour nous, en tout cas, c'est un engagement quasi politique. C'est vraiment pour nous le mode de distribution de produits alimentaires le plus cohérent d'un point de vue économie locale, d'un point de vue respect de l'environnement, de s'approvisionner au plus près.
Vous dites à propos de la source, justement, on va venir au producteur. Comment ça se déroule la négociation de ces produits? Est-ce que c'est vous qui allez auprès des éleveurs, des maraîchers, ou c'est eux qui viennent vous voir proposer les produits?
Il y a les deux cas de figure, en fait. Et nous, on a comme règle, en fait, de ne pas négocier de les prix du tout avec les producteurs, c'est-à-dire que les prix des producteurs sont les prix qu'on va répercuter en magasin. En tout cas, on négocie aucunement les prix avec les producteurs.
Ça permet d'assurer une juste rémunération des producteurs?
Oui, c'est important.
Et vous, du côté de Florac ?
Pareil, même façon de procéder, c'est-à-dire qu'on a des producteurs qui viennent nous voir, et puis on a nos producteurs historiques, mais on applique leurs tarifs et on regarde ensuite, c'est le consommateur qui décide en fait si c'est un produit intéressant, si c'est un produit qu'il a envie de racheter et de venir plébisciter.
Comment on peut être sûr que ces produits sont bien locaux ? Est-ce qu'il y a une certification ? Est-ce qu'il y a une accroche locale ? Du packaging, de la mise en rayon ?
En fait, nous, de manière systématique, on visite nos producteurs locaux, pas simplement pour contrôler ce qu'ils font, mais plus pour découvrir qui ils sont. Et on peut s'assurer de différents points de contrôle à ce moment-là.
Je me tourne vers vous, Michel Duru. Pour vous, l'achat de produits locaux, c'est important dans la santé de la population ?
Alors, c'est important, mais ce n'est pas la seule chose. L'important, c'est la qualité des produits. Le local, c'est important parce qu'il y a une garantie d'origine, donc il y a moins de kilomètres, mais ce n'est pas suffisant pour l'environnement. Après, il y a le menu. Il y a des bons produits, mais le menu, c'est la composition de plusieurs bons produits. Et en France, nous sommes pas, et en Europe, nous ne sommes pas à la hauteur d'une alimentation saine et durable.
Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle le soit ?
Il faut une alimentation qui soit beaucoup plus variée. Et donc, localement, on l'a vu ici, on ne produit pas suffisamment de fruits et légumes. Donc, varié, ça veut dire quoi ? Ça veut dire beaucoup plus de fruits et légumes en nombre. Et ce n'est pas simplement le slogan 5 fruits et légumes par jour. Pour notre santé, il faudrait tendre vers 25 fruits et légumes différents par semaine. Sachant qu'un poivron vert, ce n'est pas comme un poivron rouge. Ça apporte des antioxydants différents. La deuxième chose, c'est une alimentation plus végétalisée. Parce que si on passait par exemple tout en bio, sans changer son régime alimentaire, ça serait bon pour la biodiversité, mais ce n'est pas bon pour les gaz à effet de serre. Donc il faut absolument réduire un peu la viande, ce n'est pas la supprimer, pour compenser le fait que par kilo de produits bio consommés, il y a un peu plus de gaz à effet de serre. Et puis, c'est une alimentation moins ultra-transformée. En France, en moyenne, on consomme 33% de calories sous forme de produits ultra-transformés qui ne sont pas bons pour la santé.
Du coup, acheter local, ça serait le moyen d'acheter moins de produits ultra-transformés ?
Vous l'avez dit. Donc, tous les labels locaux, l'ancré au territoire, généralement, ce sont des produits bruts ou peu ou pas transformés. Et ça, c'est une bonne chose. Ils n'ont pas forcément des qualités intrinsèques. Mais en tout cas, ils ne sont pas mauvais pour la santé, comme le sont certains produits ultra-transformés.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le bio. On constate qu'il y a une baisse au niveau national, au moins 1,4%, notamment en 2020. Alors, c'est une petite baisse, mais c'est inédit. Je me tourne vers vous, Madame Weber. Est-ce que vous avez constaté une baisse dans votre magasin des prix de l'achat ?
Oui, ça a débuté il y a à peu près 2 ans et demi. Les chiffres là que vous donniez sont de 2020. La baisse a continué en 2021, 2022 et ça se stabilise en 2023.
Pourquoi, d'après vous, c'est quoi les raisons de cette... Est-ce que c'est lié au Covid ou un changement de mode de consommation ?
Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Au niveau du Covid, ça a peut-être influé sur le fait que, par exemple, un ménage faisait ses achats alimentaires dans 4 ou 5 commerces et ça a été réduit à 2-3. Par rapport au Covid, il y a ça qui a pu jouer. Après, il y a clairement une baisse du pouvoir d'achat des ménages qui est nette. Et malheureusement, pour l'environnement, pour nous, commerce spécialisé bio, c'est que le budget qui trinque, c'est le budget alimentaire.
Le prix a son rôle à jouer dans l'achat de produits bio ?
Alors, je pense que ce n'est pas le coût des produits bio par rapport à des produits non bio qui est le problème. Le problème, c'est que l'importance donnée au budget alimentaire baisse, en fait. Par exemple, le ménage va maintenir les mêmes dépenses sur le textile, la téléphonie, etc. Mais vu que le budget global diminue, celui qui trinque, c'est l'alimentaire.
Au niveau de Florac, c'est un magasin généraliste, pas forcément spécialisé dans le bio. Est-ce que vous avez une même politique d'approche au niveau des prix et est-ce que vous avez vous-même constaté une baisse dans la consommation de ces produits ?
On voit effectivement la même tendance sur les produits bio. Et des arbitrages qui sont faits par les familles parce que le budget, je partage, le budget alimentation est vraiment un budget qui est mis sous contrainte. Et donc oui, il y a une évolution de la typologie de produits consommés. On voit des changements actuellement qui sont assez importants et qu'on n'a pas vu depuis plusieurs décennies déjà.
Est-ce que vous mettez en place des solutions, des opérations de commerciales pour soutenir cette production locale de produits bio notamment ?
Oui, et notamment le fait que des producteurs puissent maintenant venir directement dans le magasin pour distribuer aussi leurs produits. C'est quelque chose que l'on ne faisait pas, mais que l'on a mis en place parce que ça permet d'avoir un bon compromis et de proposer des produits locaux avec un producteur qui est disponible pour pouvoir discuter avec les clients. C'est important d'expliquer aux clients la valeur des produits et pourquoi ils ont un prix qui est donné et qu'il faut respecter aussi.
Michel Duru, la transparence, notamment avec les produits, les éleveurs locaux, c'est important pour bien consommer ?
Bien sûr, parce que même s'il faut consommer moins de viande pour la santé et la planète, il faut consommer des produits animaux issus d'une alimentation à l'herbe, que ce soit pour le lait, les laitages ou pour la viande. Et ici, nous sommes dans une région qui le permet. Donc c'est important de le faire valoir parce que ça change pour l'environnement et ça change pour la santé. Un lait produit à l'herbe ou une viande produite à l'herbe n'a pas la même valeur santé qu'un lait ou une viande produite au maïs soja.
Vous êtes en déplacement actuellement en Lozère lors des journées de l'alimentation. Est-ce que vous avez vu des exemples locaux qui sont intéressants ?
Oui, d'ailleurs hier j'étais à Margevol avec des éleveurs qui font le bœuf fermier. Donc c'est un bœuf élevé quasiment à l'herbe. Et donc ce que je leur ai dit, ce type d'élevage, on doit en vanter les mérites. Et c'est normal que ces produits soient payés plus cher. Mais je rebondis sur la question sur le bio. Le bio, effectivement, est plus cher, ce qui est normal, il y a plus de travail. Mais maintenant, scientifiquement, c'est avéré que c'est meilleur pour la santé, non pas tant pour la valeur nutritionnelle, mais parce que nous sommes moins exposés en consommant ces produits aux résidus de pesticides. Et c'est avéré que c'est un effet bénéfique sur la santé. Le problème, c'est que si on est malade, c'est une souffrance personnelle, mais c'est la sécurité sociale qui paie. C'est pas le même budget. Donc on réduit la part de notre budget qui va actuellement à l'alimentation, comme vous le disiez. Mais à long terme, ça accroît le risque de maladie et il faut bien les payer un jour. Pour être très précis, en Europe, quand on dépense 1 euro pour se nourrir, 8 euros par jour, il faut presque dépenser autant pour réparer la nature et la santé. Donc en France, l'alimentation, c'est 240 milliards d'euros à peu près. Ça veut dire qu'il faut payer 200 milliards, soit pour les maladies chroniques, les cancers et autres, qui sont pour partie seulement dus à la malbouffe. Mais après, il faut retraiter l'eau, parce qu'il y a des pesticides, il y a trop de nitrates, et ainsi de suite. Les sommes sont considérables.
Et vous pensez vraiment que toute la population peut avoir accès à une alimentation locale et durable pour tous ?
Non, mais c'est pour ça que les politiques publiques doivent aider. Les 200 milliards qu'on dépense ou qu'on laisse l'ardoise à nos petits-enfants, si on en investissait un petit peu dans la prévention, aussi bien dans les pratiques agricoles que dans notre alimentation, cet argent récupéré pourrait être investi pour la prévention, plutôt que pour le curatif.
Je me retourne vers vous au niveau de la distribution. Est-ce que vous avez une future politique pour mettre en place d'autres partenariats avec des producteurs locaux ?
On continue de favoriser le local un maximum en magasin. On organise par exemple à cette occasion un marché de Noël spécial avec seulement nos producteurs locaux et bio pour les mettre en avant. Et on continue de faire ce type d'événement pour promouvoir le local.
Flora, il y a plusieurs animations, mais est-ce qu'il y en a également des opérations proposées au niveau du Carrefour Market ?
Il y a aussi des opérations et puis c'est tout l'objet d'une journée comme ça, de pouvoir rencontrer des nouveaux producteurs et d'imaginer des opérations à venir. C'est en ça que c'est intéressant de pouvoir rencontrer l'ensemble des producteurs en un seul et même endroit.
Effectivement, puisqu'il y a plusieurs producteurs locaux qui sont présents lors de cette journée des professionnels des journées de l'alimentation. Je reviens, quels sont les produits populaires auprès des Lozériens, les produits locaux qui sont les plus consommés ? Est-ce que ça va être des produits d'alimentation un peu principale, tels que des légumes, fruits, légumes, viande, ou ça va être plus des produits un petit peu optionnels, comme les plantes aromatiques ?
Pour nous, c'est net, ça sera tout ce qui est boulangerie et produits de base, les œufs, la farine et les légumes, évidemment.
Et pareil, des produits de base, mais après, on a aussi des gens de passage, des touristes par exemple, qui apprécient de découvrir les produits locaux et qui apprécient de pouvoir emmener aussi avec eux des produits de la région. Et c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça fait connaître aussi la région un peu plus loin et donc ça apporte aussi une vraie dynamique intéressante pour des producteurs aujourd'hui lozériens qui ont la capacité aussi d'aller vendre les produits sur toute l'Occitanie, voire même plus loin.
Est-ce que quand on achète des produits locaux, est-ce qu'il n'y a pas, tiens par exemple je vais prendre la confiture locale de retour, en souvenir de vacances, voilà, est-ce qu'il n'y a pas ce risque que ça soit un peu trop occasionnel? Est-ce que vous avez une clientèle qui revient pour acheter les mêmes produits qui consomment de manière durable dans la durée du coup?
Oui, 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 clairement. On a des consommateurs qui viennent pour acheter le pélardon de tel producteur. On a vraiment des consommateurs qui sont attachés aux produits que l'on peut proposer.
Et au-delà de ça, on parlait du coût. La plupart de nos consommateurs sont prêts à payer plus cher un produit qui viendrait de Lozère plutôt qu'un produit d'ailleurs.
D'après une étude du CLCV, donc une association de consommateurs, les légumes bio coûtent en moyenne 44% plus cher que ceux issus de l'agriculture classique. Est-ce que c'est justifié?
Est-ce que vous pouvez répéter la statistique et d'où elle vient? Parce que c'est pas correct, autant que je sache.
Alors c'était de La Dépêche qui reprenait une information de l'association de consommation CLCV. Et c'était une étude qui avait été menée et c'est 44% plus cher que les équivalents de légumes issus de l'agriculture classique. Est-ce que vous confirmez ou pas?
Non, je confirme pas et d'autant... Je le confirme encore moins en ce qui concerne les produits locaux qui sont produits sur place. Au niveau des tarifs, on n'est pas plus cher, non.
D'accord. Pourtant, est-ce qu'il faudrait déconstruire cette idée de le bio c'est cher donc c'est pas pour moi?
En fait, ça dépend ce qu'on achète en bio. Le bio n'est pas nécessairement cher. Si on achète des produits de base non transformés en local, c'est pas plus cher que le non bio industriel.
D'accord.
Et il y a la notion de saisonnalité aussi qui rentre en ligne de compte. Et effectivement, des produits qu'on voudrait avoir hors saison coûtent plus cher que des produits que l'on peut avoir en saison. Et ça a aussi un facteur très important.
Une dernière question. Michel Duru, bien consommer local, ça se passe comment?
Bien consommer local,
il faut faire quoi?
Il faut choisir des produits de saison, c'est fondamental. Et il faut toute une organisation logistique pour réduire le coût du transport. Parce que si j'achète du pain bio, c'est bien, mais si je prends ma voiture pour acheter le pain bio tous les jours, c'est mal. Les frais de transport, c'est 30% des gaz à effet de serre de l'alimentation. Et donc, il faut transporter la plus grande quantité par kilomètre. Et donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse mes courses pas fréquemment, ou alors il faut que je fasse beaucoup de courses à la fois. Ça, c'est valable pour le consommateur, mais c'est valable aussi pour le producteur. Il ne faut pas qu'il prenne sa camionnette pour transporter des petites quantités. Il faut faire des regroupements. Donc dans un département qui est quand même peu peuplé comme la Lozère, il y a tout un travail de construction de logistique à faire pour réduire, bien sûr, le coût du transport, mais surtout les émissions de gaz à effet de serre. Donc la plus grande quantité de marchandises par kilomètre transporté.
C'est une politique que vous mettez en place au niveau ne serait-ce que pour alléger les coûts de logistique, de distribution, de regrouper les achats?
On y travaille, mais à l'heure actuelle, on n'a pas de solution concrète pour nos producteurs de Lozère, en tout cas. De temps en temps, de manière très occasionnelle, il va y avoir un producteur qui livre un autre producteur qui est proche de sa zone, mais il n'y a rien d'organisé, il n'y a rien d'assez bien organisé dans ce domaine-là à l'heure actuelle.
On évoquait en première partie d'émission un PAT qui est mis en place par le département. Est-ce que vous avez entendu parler de ce programme? Est-ce que ça pourrait se greffer au réseau de distribution des magasins?
On y participe depuis le début et oui, ça pourrait coller tout à fait avec le PAT d'organiser une sorte de solution logistique pour l'approvisionnement au plus proche.
Eh bien écoutez, merci beaucoup. On l'a vu, les distributeurs et les marques ont donc un rôle majeur pour guider nos comportements et construire l'alimentation de demain. Et puis on parle dans la suite de l'émission juste après un peu de musique.
Tight like a fight, used to hang with the devil in the broad daylight. We had him rude, I walk him bound till we had him broke. We're kind of falling out. Show me the low, you show me the down. Called it the happy lowdown. We used to rock some tunes with a guy named Lloyd. Lloyd still got them Polaroids. Daylight, broad daylight. Stop connection, you got your fight. Leaving him alone in the broad daylight. He might get it on his own. Start building a throne out of worn out razors. looking shaken, you can't find his plight. Got you scared of ghosts in the dead of night. And while you're making up stories, trying to make it okay, he'll be bringing them in to let them out and play. In the broad daylight, broad daylight, leaving me alone in the broad daylight, daylight. In the broad daylight, broad daylight, in the broad day, please don't leave me alone, leave me alone in the broad daylight. Get your money, you get your night. Just leave me alone up in the I need some shit of my own. I need a throne, not them razors. And who you think you are, screaming Hollywood burn? You really wanna stop it, then burn your sperm. Cause this here be going on until it's not. And then a little more broad daylight, leaving me alone in the broad daylight, daylight. In the broad daylight, broad daylight. Broad day, please don't leave me alone. Leave me alone in the broad daylight. In the broad daylight. In the broad daylight. In the broad daylight. Oh. In the broad daylight.
Troisième partie de cette émission consacrée à l'alimentation durable et locale. Il y a plusieurs concepts qui sont étudiés en France, notamment la sécurité sociale de l'alimentation. Alors c'est un concept nouveau qui est en phase de test, notamment dans le Vaucluse par l'association Au Maquis. Une trentaine de citoyens s'apprêtent à participer à une caisse commune pour mieux manger. Je vous propose d'écouter le témoignage de Dora Tilly, qui est une de ses participantes.
J'ai 70 ans, je suis retraitée. J'ai jamais été vraiment militante, mais toujours très concernée par ce qui se passe quand même autour de moi et ce qui concerne l'environnement. Ça peut être donc le collectif local de l'alimentation de Cadenet, du CLAC. Et là, je me suis engagée dans ce mouvement en tant que mère et grand-mère qui voulait absolument faire quelque chose pour laisser un monde meilleur à mes enfants, mes petits-enfants, parce que je trouvais vraiment impossible et je voulais agir. Et il m'a semblé qu'agir sur l'alimentation, sur plein de de la société en fait, et c'est pour ça que je suis restée dans ce groupe, alors qu'au début j'étais un peu hésitante.
D'accord, ça fait combien de temps que vous participez à ce mouvement?
Je participe à ce mouvement depuis février 2022, je n'avais jamais entendu parler de ça, je me demandais bien de quoi il s'agissait, je craignais que ce soit quelque chose d'un peu trop intellectuel, et puis en fait j'ai réalisé que non. Je suis allée à une première réunion, il y a eu une intervention au sujet du système alimentaire et ça m'a fait réaliser justement à quel point ça touchait à tous les pans de la société.
Vous dites que vous aviez peur que ça soit trop intellectuel. Concrètement, qu'est-ce que vous réalisez au sein du mouvement?
En février 2022, on ne recevait aucun produit parce qu'on était juste un groupe de réflexion. Et on avait envie d'expérimenter une caisse, mais bon, on s'en approche. On a maintenant les membres d'une caisse et on va commencer, mais on n'a pas encore fonctionné en tant que caisse.
Comment elle fonctionnerait, cette caisse, du coup?
Disons que le mouvement, il a obtenu un financement de la Fondation de France. À partir de ce financement, on a calculé qu'on pouvait démarrer une expérimentation qui consisterait à rembourser pour 150 € de frais alimentaires de produits conventionnés par mois pendant un an. Ces 33 membres se composent de 23 membres volontaires de Cadenet tirés au sort, de 5 personnes de l'épicerie solidaire et de 5 membres du groupe qui participe à la réflexion depuis 2 ans et qui habite Cadenet.
Et ces 150 €, ça servirait à quoi en fait?
Alors on ne va pas donner 150 € aux personnes, on va rembourser, mais ça servirait à acheter des produits qui seront conventionnés. De la même manière que la sécurité sociale, elle rembourse des médicaments qui sont conventionnés. Et les critères de conventionnement vont être définis par la caisse elle-même. les membres de la caisse vont avoir à travailler sur les produits qui sont vendus par les trois lieux de distribution sur Cadenay, à savoir un agriculteur biologique, l'épicerie du centre du village et le magasin de producteurs.
Ça permet un petit peu de faire vivre le territoire et les entreprises locales ?
Eh ben oui, parce que on va favoriser les produits qui sont fabriqués de manière vertueuse pour l'environnement sur le territoire. On a décidé qu'il y aurait trois niveaux de conventionnement, 100%, 70% et 30%. Et donc 100%, ça va être des produits qui déjà contribuent pleinement à transformer le système alimentaire.
C'est un mode de décision efficace, des prises de décision alimentaires, cette réunion de démocratie participative ?
C'est un peu plus lent, effectivement, que s'il y a un sachant qui distribue la bonne parole, etc. Mais en même temps, ça permet d'aller un peu plus au fond des choses et de faire émerger des idées. Bon, dans notre petit groupe à nous, ça laisse à chacun la parole. Et comme le but de la sécurité sociale d'alimentation, c'est que les habitants d'un territoire puissent décider de la nourriture à laquelle ils ont accès, de la manière dont elle est produite et distribuée, c'est une base indispensable.
C'était donc le témoignage d'une citoyenne qui participe à un projet de sécurité sociale de l'alimentation dans le Vaucluse. Ce concept est encore à l'étude dans notre département, c'est les premiers pas. Cependant, le Secours Populaire de Lozère mène un projet similaire. L'objectif serait d'acheter en commun des produits frais à des producteurs locaux pour les vendre à prix réduit aux ménages précaires. Laurence Nouveau, bonjour. Vous êtes
bonjour.
Une de ces productrices locales puisque vous dirigez les jardins de cocagne près de Marvejols. Alors, est-ce que j'ai bien résumé les projets ?
Alors, vous résumez bien le projet. Nous, l'idée avec le Secours Populaire, c'est que nous, on est producteurs de légumes bio dans le cadre d'un chantier d'insertion et qu'eux les distribuent en partie lors des distributions alimentaires pour le public précaire. Donc l'idée, c'était d'aller au-delà de cette simple distribution, mais qui est déjà beaucoup, qui est intéressante sur notre territoire, et de se dire, est-ce qu'on ne peut pas aller jusqu'à créer un lieu où on pourrait avoir cette distribution, mais pourquoi pas des ateliers de bien-vivre alimentaire, de cuisine de rue, des choses simples, également d'être relais de cuisine du monde, enfin d'espaces où aussi des personnes qui arrivent d'autres horizons de notre territoire puissent partager leurs pratiques. Voilà.
Quelle est votre réaction face à ce témoignage ? Est-ce que le projet qui a été présenté, il est similaire au vôtre ?
Alors nous, on ne part pas dans l'idée de créer une caisse commune de sécurité sociale et alimentaire. Alors pourquoi pas ? Et dans l'éthique, on va se rejoindre. Nous, l'idée, c'est de dire qu'il y a des besoins sur ce territoire de Lozère d'aide alimentaire. Il y a des gens qui travaillent, qui viennent chercher des produits auprès des associations caritatives, qui n'arrivent pas à finir le mois, hein, l'inflation, etc., ou des situations familiales. Donc nous, on vient porter de l'intelligence collective avec qui voudra bien s'associer à nous pour se dire, sur le territoire du Gévaudan, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour permettre de résoudre en partie cette problématique-là, mais de la faire de manière collective et aussi apprenante, c'est-à-dire que les gens puissent aussi apprendre à cuisiner un légume entier, enfin cru, et non pas, on parlait ce matin, des boîtes de conserve et des sacs de surgelés. Il y a des personnes, nous on accueille des enfants sur le site du jardin, des enfants qui ne savent pas comment pousse une carotte.
En antenne, vous avez qualifié cet espace de tiers-lieu.
Oui.
C'est une manière de créer du lien social ?
C'est exactement ça. C'est-à-dire que les gens sont dans des cases, hein, enfin, ou dans leur fonctionnement, et on n'apprend plus à se rencontrer, à se réunir. Enfin, on se parle beaucoup sur les écrans, par contre, mais on oublie d'aller dans la rencontre humaine. Donc nous, on a envie de remettre l'humain au centre de cela. Et puis, ça permet aussi de faire se rencontrer les personnes de ce territoire, et pas d'avoir que l'association ou les associations d'un côté et les gens qui ont besoin et qui dépendent de ces associations.
Quel est le rôle des pouvoirs publics pour cette initiative, quoi ? Est-ce que vous êtes aidé ou pas ?
Alors pour l'instant, on est au stade projet qu'on a présenté via un dossier qui s'appelle Mieux manger pour tous, donc qui est un dossier d'État. Et le Secours Populaire a été retenu dans cette dynamique de pouvoir développer des achats locaux pour les distributions locales. Donc ça déjà c'est énorme et c'est déjà un grand signe d'encouragement. Et là il nous faut aller plus loin. Donc on va lundi là à une manifestation à Toulouse qui s'appelle Fin d'avenir, qui va réunir justement des interlocuteurs d'Occitanie pour dire on en est au stade projet, comment est-ce qu'on peut transformer l'essai. Voilà.
Vous avez besoin de quoi pour que ce projet se lance ?
On va avoir besoin d'ingénierie, ça veut dire de gens qui ont la compétence aussi pour faire aboutir ce type de projet, parce que nous, on est à la manœuvre sur le terrain et on est déjà bien, bien débordés. Donc, pourquoi pas trouver quelqu'un qui a cette compétence et financer cela. Et puis après, ça veut dire chercher des locaux, chercher une équipe autour de nos deux structures, enfin, qui viennent nous filer un coup de main. Enfin, voilà. On en est là et on en est au stade plaquette du projet.
Le concept est très très intéressant. Hein. Le problème que vous avez à l'heure actuelle, si j'ai bien compris, c'est la communication de ça.
Voilà.
C'est-à-dire comment faire des petits d'un projet comme ça, c'est ça,
ça. C'est ça. C'est pour voilà. ça qu'on a, on vient d'élaborer dans la semaine une plaquette représentative et qu'on va commencer à diffuser aux partenaires. Et puis il y a cette réunion lundi en Occitanie qui va nous donner aussi la dimension de la région enfin, et des autres départements, parce que peut-être qu'ailleurs... Et sûrement qu'ailleurs, en Occitanie, ça s'est fait, quoi. Voilà.
Alors, quelle serait la suite de ce projet une fois qu'il serait monté ?
La suite, c'est d'arriver à montrer que grâce à un lieu identifié dans une ville, qu'elle soit Mende, Marvejols, enfin, on peut arriver à mixer les publics, on peut arriver à fédérer les gens autour d'actions, que ce soit un atelier cuisine, un film documentaire. Enfin, nous, on pense aussi comment faire des conserves avec une simple casserole. Et on est beaucoup là-dedans, avec peu de moyens. Hein, ce n'est pas la peine d'avoir le dernier robot ménager. voilà. Nous, au Jardin de Cocagne, on fait des ateliers toute la semaine avec les salariés, avec les moyens du bord. Et c'est ça, c'est de réapprendre à se réapproprier son alimentation. Et puis, mieux manger, c'est aussi aller mieux au niveau du corps. Et puis, on espère aussi au niveau du porte-monnaie, hein, et que ce soit un mix de tout cela.
Alors, ce que vous avez dit tout à l'heure concernant les enfants, par exemple, comment vous faites pour encourager les enfants à venir vous rencontrer et à toucher et à fabriquer des choses quoi, qui sont après cuisinées, qui sont...
Du coup, sur le jardin, on est agréé éducation nationale hein, par l'inspecteur. Ah, donc, on propose aux écoles qui ont des projets autour de... Ça peut être l'alimentation, mais pas que. Hein, ça peut être l'environnement, ça peut être de pouvoir venir sur notre structure et on va créer du sur-mesure. Ça peut être de la graine à l'assiette, donc on va faire du semis, on va faire de la récolte et une autre séance, on va passer à faire une soupe, par exemple. Et pour d'autres, ça va être aller voir le compost, comment on peut composter dans son jardin, même si on n'a pas un gros espace. Ça peut être de l'observation de paysages avec des plus grands. Qu'on se rende compte les saisons. Il y a quand même des enfants à qui on fait toucher du doigt que voilà, les feuilles changent de couleur. Enfin.
Alors, on l'a pas évoqué tout à l'heure, mais concrètement, donc en plus des cours de cuisine, de soutien du potager, etc., ça va être quoi les aliments concernés par ce tiers-lieu ?
Alors, nous, on va pouvoir interpeller un producteur de viande ou un producteur de fromage dans le Gévaudan. Ou les fruits rouges, enfin on connaît plein de producteurs avec qui on travaille déjà sur des actions et de pouvoir les emmener dans le sillage et qu'à un moment donné, quand on touche une subvention pour faire un panier solidaire à une personne démunie, bah, que dedans il puisse y avoir peut-être la tome de tel GAEC ou peut-être un bocal de conserve, on a entendu Jean-Baptiste Amarger voilà, sur la viande, enfin... Voilà, c'est cet ensemble, cette dynamique qu'il nous faut mener, parce que seul, on n'avance pas bien. Hein. voilà.
Concernant, est-ce que vous avez... c'est un projet très social quand même, avec recréer du lien, distribution aux ceux qui en ont besoin. Est-ce que vous avez rencontré des oppositions face à ce projet ?
Alors, pour l'instant, non. Après, ce qu'on sait, c'est que des gens parfois disent... ça sert à rien de donner, il faut que les gens participent. Donc, peut-être.
Oui, c'est pas gratuit, c'est qu'on demande
voilà,
une participation.
Donc, il y a une participation même pour les paniers solidaires. Mais quand nous, on sait avec nos collègues travailleurs sociaux que des travailleurs dits pauvres ont besoin d'un panier de denrées, ça peut être du sec donné par le Secours populaire ou nos collègues de la Croix-Rouge qui font également ça, du riz, des pâtes ou des légumes. Quand on sait qu'on a besoin de ça pour finir la semaine, ça interroge sur la fonction travail. Voilà, nous les oppositions, s'il y en a, on est ouvert au débat et il n'y a que le dialogue qui va permettre. Et c'est pour ça qu'un tiers-lieu, ça permet aussi que du panier, on passe à la réalisation de quelque chose, à conserver aussi. Bah, tiens, il me reste, je ne sais pas moi, un chou que je n'ai pas terminé, j'ai trop. comment on va apprendre aux gens à le gérer pour que ça ne soit pas perdu. Voilà. Il faut lutter contre ces déchets alimentaires également. On a une société à deux ballons, quoi, enfin.
Le thème global de cette émission était consacré au projet alimentaire territorial. Alors c'est un programme général pour une alimentation locale et durable, de manière pour tous. Est-ce que vous en faites partie ?
Alors que nous, complètement, puisqu'on est une association agréée par les services de l'État et accompagnée aussi par le département dans la mission insertion, pour embaucher des personnes qui sont loin de l'emploi ou qui rencontrent des difficultés telles qu'ils ne peuvent pas aller vers l'emploi classique. Et avec 4% de chômage sur ce territoire de Lozère, on entend bien que ceux qui ne vont pas vers l'emploi, c'est qu'il y a de réels soucis. Ça peut être la mobilité, des personnes qui n'ont pas du tout la possibilité de passer un code, ou intellectuellement, ou financièrement. Ou... Donc on va accompagner, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des primo-arrivants au niveau de la langue, enfin, on peut tout imaginer, mais également un couple qui éclate, une maladie qui arrive, vous perdez votre boulot, comment vous repartez dans la vie, c'est pas simple. Donc nous, notre association, elle se propose de faire cet accompagnement-là. Voilà.
Et ce genre de projet, du coup, est-ce que vous pensez que ça peut être étendu à un public plus large ? Et si oui, comment ça peut être mis en place ?
Alors, nous, on milite complètement là-dessus au Jardin de Cocagne, puisqu'on inclut souvent nos bénévoles et nos adhérents, hein, des personnes qui, on va dire, juste achètent le panier. On les informe du travail qui se fait sur la structure. On fait souvent des appels aux dons parce que tel salarié accède à un logement ou tel. Donc, dans notre projet de tiers-lieu, il faut absolument qu'aussi on emmène les citoyens. Et ça peut être aussi un acte fort pour quelqu'un de dire, bah tiens, moi j'ai appris à faire les conserves à l'époque, je viens montrer comment est-ce qu'on fait cela au groupe présent tel jour. Mais ça peut être de la couture, ça peut être des choses, il faut revenir à ce que les gens se réapproprient les choses qui les concernent et ne pas être dépendant ou de l'aide publique. C'est très important de remettre la personne au cœur de son propre projet de vie.
Juste une question au niveau de la pauvreté, justement. Qu'est-ce que vous constatez ? Est-ce qu'il y a effectivement, il y en a de plus en plus, ou au contraire, votre association arrive à limiter les dégâts, quoi, si je veux dire ?
Alors nous, on essaie de limiter les dégâts, ça c'est sûr, parce que quelqu'un qui va rentrer au RSA chez nous, après sa période de travail, plus ou moins longue en fonction de son projet, va ouvrir droit au chômage pour lequel il a cotisé. Donc déjà, on change de catégorie. Après, j'ai eu connaissance des chiffres précarité Lozère hier avec la conférence du Secours catholique Lozère. Regardez-les, ça doit nous interpeller. Et justement, je pense qu'il y a une frange de la population qui n'était pas dite pauvre et qui devient, peut-être pas trois repas par jour, des achats de produits qui ne vont plus se faire, et je ne parle pas des sorties restaurants. Pour certains, il y a longtemps que ça n'a plus lieu. Donc c'est important.
Une dernière question, est-ce que justement une sécurité sociale de l'alimentation, ça permettrait encore plus d'atténuer cette pauvreté ou de réduire cette pauvreté ?
Alors j'ai pu, lors d'une journée régionale alimentation que nous avons menée à Cocagne le 1er septembre, on a pu avoir le témoignage de Pauline Scherrer qui a monté aussi cette caisse-là sur Montpellier et qui explique bien les dynamiques que ça engendre. Après, il faut vraiment que le public soit très homogène pour que ceux qui peuvent payer puissent financer pour ceux qui ne le peuvent pas. On est totalement dans la même éthique que la sécurité sociale santé mise en place après la guerre.
Donc les besoins un peu similaires à vous entendre.
C'est ça.
Eh bien écoutez, merci pour ce témoignage. Émission était consacrée au projet alimentaire territorial et à l'alimentation durable. Merci beaucoup Laurence Nouveau, ainsi que tous les autres invités d'être venus pour évoquer ces sujets.
Merci.
Cette émission a été préparée par Guillaume Delorme, Ludovic Terrol à la technique. À l'animation, on retrouve Jean Soulet, Romain Morantin et Julien Rogeau. On se quitte, mais les journées de l'alimentation, ça continue. Demain, le salon est ouvert au public. Avec plusieurs animations à partir de 9h, c'est gratuit et ouvert à tous, alors n'hésitez pas à venir. On se retrouve très bientôt sur les ondes en Lozère. Yeah.
Je fais un truc abstrait qui fait vibrer les particules. Si j'articule, tu comprendras ces mots, hélas, vrai. Je parle musique et eux parlent hit. Je suis sur le beat pour le trip et eux pour le free. J'ai ni la carrure, ni les cicatrices d'un 57, ni le dixième de son vécu, mais je distille ses rimes. Avec la passion qui m'anime
et pas pour le choix unanime d'un single qui n'a ni plume ni mélodie. Juste un slogan de pub gravé dans ton crâne comme un bon produit. Je me lève zig bou zi, mes tympans de grooveur à full zi. Je me couche zig red zig fusil, mes diamants de Cubert à AZ. Yeah, j'envie ses mains déliées sur les 73 touches noires et blanches. J'admire ses vies dédiées, Miles, Billy Holiday et ce timbre étrange. J'envie ses mains déliées sur les 73 touches noires et blanches. J'aime ses variations cuivrées, le swing des balais, le silence. J'ai mis du bleu dans mes notes, jazz et soul, on est non, bonne vibe, on est comme tribe, on est homme, loin des sucks, on décolle, sans connu alcool, ça t'étonne. Il me faut un piano à cordes, et stylo à ma portée, un xylo des cordes et les notes sur la portée. J'en rêve, pianissimo forte, et là je commence à douter, tentation est forte, mes tentatives avortées. Bref, restons cartésiens. Je suis pas Mozart, et ces accords au fond, c'est pas les miens. Je rends à César ce que bon nombre a pillé, pitché, pour faire une concours de pli. J'envie ses mains déliées sur les 73 touches noires et blanches. J'admire ses vies dédiées, Miles, Billy Holiday et ce timbre étrange. J'envie ses mains déliées sur les 73 touches noires et blanches. J'aime ses variations cuivrées, le swing des balais, le silence.
And you're coming to the house of the jazz of the funk.
Music from the soul, y'all.
That is soul. And you're coming to the house of the hip.